Bonjour. Ce soir, nous allons étudier au sujet du ministère des femmes et quelque chose que je voudrais vous dire à ce sujet. Nous allons lire dans 1 Timothée 2:12. C'est Paul qui parle et qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit rester dans le silence car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Voilà. Alors, je voudrais aborder ce sujet qui est délicat. Pourquoi est-ce que je le fais maintenant? Parce que nous sommes allés à l'école biblique des Gitans il y a 3 semaines à peu près, je crois, avec mon épouse et avec notre frère Francis Bélanger, qui est dans notre communauté. Et nous sommes arrivés là-bas et mon frère Francis et moi, nous avons été invités à entrer dans la salle de cours, hein, puisque c'est une école biblique. Nous avons été invités à entrer dans la salle de cours, enfin dans les salles de cours où nous avons pris la parole. Enfin, ils nous ont donné la parole, par contre, ils ont prié mon épouse de rester à la cuisine avec les sœurs qui préparent le repas. Alors, je ne vais pas contester parce que je suis invité, parce que j'ai de l'éducation, parce que je suis poli. Je ne voulais pas faire de scandale. Et puis voilà, puis j'aime bien les Gitans, et puis je connais leur tradition. Voilà. Mais je cherche à comprendre quand même pourquoi les femmes ne peuvent pas avoir accès à la connaissance chez eux. Bon, elles peuvent assister au culte, elles peuvent. Mais pourquoi, alors, j'ai décidé de relire ce que Paul dit au sujet des femmes qui n'ont pas le droit d'enseigner? Parce qu'en fait, ne peut enseigner que celui qui a été enseigné. D'accord. Eh bien, c'est bien de là que vient le problème. Les femmes n'ont pas accès à la connaissance, et cela parce qu'elles n'ont pas le droit d'enseigner chez eux là-bas, à cause de ce texte de Paul. Le texte que nous avons lu est la plus forte déclaration de l'apôtre Paul au sujet de l'accès qu'ont les femmes à l'estrade, au micro, comme s'il y avait des estrades et des micros à l'époque. Je crois qu'il est nécessaire de lire le contexte, n'est-ce pas? Par exemple, au verset 9-10, Paul dit que les femmes qui font profession de servir Dieu ont toute une façon correcte de s'habiller. Ça veut dire qu'elles ne sont pas aguicheuses. Hein, on peut le lire si vous voulez. Versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce que Paul voulait vraiment que toutes les femmes se taisent dans l'Église? Alors, c'est ce que je voudrais développer ce soir avec vous. Nous avons lu le verset 12 pour commencer, et dans le verset 12, Louis II a traduit en français un mot grec qu'on ne trouve que là, dans toutes les Écritures. On ne trouve que là. Et ce mot était considéré, donc, chez les Grecs, comme un mot vulgaire. C'est le mot autantein. Second traduit ça par prendre l'autorité. Par prendre l'autorité. Darby dit, je ne veux pas que la femme use d'autorité sur l'homme. Alors je pose une question. On va revenir à ce mot tout à l'heure. Si la femme ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité sur l'homme, est-ce que cela n'est vrai qu'à l'Église? Ou est-ce que cela doit s'appliquer à toute la vie sociale? Parce que, réfléchissons, Paul dit qu'elle peut elle ne peut pas enseigner parce que car c'est Adam qui a été créé le premier et Ève ensuite. Alors réfléchissons, Adam a été créé pour être enseignant ou pour être le premier des humains? Dans 1 Corinthiens 14, 34-35, Paul dit encore que la femme doit se taire dans les assemblées. Ok. Et toutes les dénominations chrétiennes, jusque dans les années 60 à peu près, se basaient sur ces textes pour empêcher les femmes d'enseigner. Il y a quelques rares exceptions, c'est vrai. Mais pourquoi ne se basait-il pas sur 1 Corinthiens 14,5, par exemple, dans 1 Corinthiens 14,5, Paul dit qu'il désire que tous parlent en langue. Alors, les grandes religions officielles ne font pas cela, n'est-ce pas? Tous ne parlent pas, les hommes ne parlent pas tous en langue. Hein? Imaginez, vous entrez dans une église catholique en Bretagne, et là, dans notre village, vous voyez dans l'église tous les hommes, les mains en l'air, selon 1 Timothée 2,8, « Je veux que les hommes prient en tout lieu, les mains levées. » Alors, puisque Paul dit « je veux », alors voilà, il faut le faire. Hein? Bon, d'accord, les femmes se taisent, mais les hommes, dans toutes ces églises où on interdit les femmes de prêcher, il faut qu'ils aient tous les mains en l'air et qu'ils parlent en langue, selon 1 Corinthiens 14,5. Tout cela pour être sûr d'observer les commandements de Paul. Alors imaginez un peu, vous entrez dans une bonne vieille église baptiste ou mennonite ou darbiste, et là, tous les hommes ont les mains levées, selon 1 Timothée 2,8, parce que Paul dit « je veux », donc il faut le faire, et parlent en langue selon 1 Corinthiens 14,5. Tout ça pour obéir scrupuleusement aux commandements de Paul. Ils ne le font pas. Le même Paul qui a dit « je veux que la femme se taise », il dit aussi « je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains saintes », 1 Corinthiens 14,5. Bon, je plaisante, soyons sérieux. Vous allez me dire « on n'a pas le droit de plaisanter sur des sujets aussi sérieux », mais des fois, en disant quelques bonnes absurdités, ça fait réaliser l'absurdité des choses sérieuses, ou prétendues l'être. Un jour, Paul laisse son ami à Éphèse, parce qu'il devait aller régler certaines affaires, il devait arrêter certaines personnes qui prêchaient des doctrines étrangères. 1 Timothée 1,3. Alors là, il emploie un mot, le mot « certain », en grec, ça se dit, bon, excusez-moi pour la prononciation, « tisin » ou « tisin », je ne sais pas. C'est un mot neutre qui indique aussi bien les hommes et les femmes. Donc il devait aller arrêter des femmes, peut-être, qui prêchaient des doctrines étrangères, ou des femmes et des hommes, ou des hommes tout simplement. Enfin, c'est neutre, le mot tisin. Alors, pourquoi Paul emploie ce mot tisin, qui est un mot neutre, alors qu'on sait très bien que l'apôtre Paul fait très attention aux mots qu'il emploie? Il aurait pu employer un autre mot si ce n'avait été que des hommes qui prêchaient là-bas. Le mot pour indiquer cela en grec, pour indiquer que ce sont des hommes, c'est le mot aner. Alors pourquoi est-ce qu'il emploie le mot tisin ou tisine? Il devait donc y avoir à Éphèse des hommes aussi bien que des femmes qui enseignaient des choses fausses. Mais ce n'est pas parce que c'était des femmes qui enseignaient qu'il va les arrêter, mais c'est parce que ces hommes et ces femmes disaient, enseignaient des choses fausses. Si ces hommes et ces femmes n'avaient pas enseigné des choses fausses, Paul les aurait laissés. Ah, ça fait réfléchir. Écoutez ça. Ces gens-là, Paul, il en parle dans 1 Timothée 1, 6, 7. Si vous voulez lire avec moi, 1 Timothée 1, 6, 7. Je lis. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, donc de la foi sincère, d'une bonne conscience, etc., se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils enseignaient, ces gens-là, des mélanges de mythes, de spéculations. En général, dans les écoles évangéliques, on nous dit qu'il s'agissait de juifs, de judaïsants, qui voulaient être des docteurs de la loi et qui n'y comprenaient rien du tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Écoutez bien pourquoi. Irénée, au deuxième siècle après Jésus-Christ, il a appliqué ce verset aux gnostiques. Je pense qu'il savait mieux de quoi il parlait que nos chers professeurs du 21e siècle. Tertullien a écrit « Les semences hérétiques gnostiques avaient déjà été semées au temps de Paul. » Il savait de quoi il parlait, c'était au deuxième siècle. En 100 et quelques, au deuxième siècle. Et dans ce texte de 1 Timothée 1, 6, 7, Paul parle donc des gnostiques. À l'époque de Paul, Éphèse, c'était une métropole de gentils, c'est-à-dire de non-juifs. Et l'Église était principalement composée de non-juifs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet des femmes ? Écoutez bien. À Éphèse, c'était une Église composée spécialement, principalement de non-juifs. Et il y avait pas mal de convertis qui s'écartaient parce qu'ils étaient encore attachés à certaines de leurs anciennes croyances. Et un jour, Paul a écrit à Tite, dans Tite 1,13, « Reprends-les vertement afin qu'ils soient saints dans la foi. » La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et au verset 14, « N'accorde pas d'attention aux mythes judaïques et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. » Là, Paul y parle de deux catégories d'erreurs, celle des judaïsants et celle des gnostiques qui avaient des commandements mais qui se détournaient de la vérité, qui avaient des lois, des règles, mais qui se détournaient de la vérité. Paul, on le voit livrer Hyménée et Philette à Satan, on le voit chasser Alexandre le forgeron, l'excommunié, et si on veut en résumer, on peut dire que Paul dit empêcher tous ces hérétiques d'enseigner. C'est à cause de ça, c'est à cause de leurs hérésies qu'il voulait qu'ils cessent d'enseigner. Dans 1 Timothée 6, 20-21 maintenant. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Le mot que Paul emploie là pour la fausse science, c'est un mot grec, le mot gnose, qui signifie connaissance. Dans la version Darby l'a traduit plus juste que second. Il a dit la connaissance à la place de la fausse science. Il dit la connaissance ainsi faussement nommée. C'est beaucoup plus juste. Ce qui donne, en fait, la gnose ainsi faussement nommée. C'est-à-dire que la gnose, c'est la connaissance, mais elle est faussement nommée parce que c'est une fausse connaissance, une connaissance erronée. La gnose, c'est la science des gnostiques. Les gnostiques, ils existent toujours. Ils continuent à revendiquer une connaissance soi-disant cachée et secrète, hein, gnose, d'où leur nom d'ailleurs. Et Paul écrit ce qu'il écrit là, ce qu'on a lu là, dans les tout premiers temps de l'Église primitive. Et la gnose dite chrétienne, les gnostiques en étaient eux aussi au tout début. Et c'est pourquoi la Bible ne nous parle pas beaucoup d'eux. Sauf juste pour dire, bon ben voilà, ils ont une fausse connaissance, etc., etc., ils vivent dans l'immoralité. Mais au IIe siècle, Clément d'Alexandrie, Irénée et Hippolyte au IIIe ont beaucoup écrit sur ce sujet. Lui, Paul, il a dénoncé les hérésies des gnostiques dès leur apparition, c'était encore sous forme de... c'était petit. Mais Irénée, Clément et Hippolyte, ils ont combattu, eux, des doctrines qui étaient bien établies au IIe siècle et au IIIe siècle. Donc, ils connaissaient bien. Par exemple, écoutez-moi bien, c'est les gnostiques qui ont élevé Ève en tant que mère de tous les vivants, alors que la Bible nous dit que c'est Adam le père de tous les vivants, mais pas Ève. Si la Bible ne dit pas que Ève est la mère de tous les vivants, il y a une raison. Et vous qui connaissez mon enseignement, vous savez quelle est la raison. Certains évangélistes croient ça, que Ève est la mère de tous les vivants. Ils le croient. Les gnostiques, ils disent qu'Ève, en consommant du fruit défendu, a reçu une gnose, c'est-à-dire une connaissance secrète. Et c'est les gnostiques qui ont apporté dans le christianisme l'idée de la femme médiatrice. Ils prétendent, par exemple, aussi que la femme de Noé a écrit un livre sacré, etc. C'est une connaissance. C'est pas pour tout le monde. Alors voilà le tableau de l'Église à qui Paul écrivait. Paul écrivait à Timothée 5,15 que certaines femmes s'étaient détournées pour suivre Satan. On va lire 2 Timothée 3, 6, 8. 2 Timothée 3, 6, 8. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Voilà ce que Paul écrit à Timothée. Ces gens-là, qui s'introduisaient dans les maisons, c'était des gnostiques. Et ces bonnes femmes, déséquilibrées, les écoutaient, des femmes chargées de péché, des femmes sensuelles, et elles n'étaient pas comme les femmes qui font profession de servir Dieu. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a lu des femmes qui font profession de servir Dieu, on va y revenir. C'était donc ces femmes-là qui devaient se taire dans l'église, pas celles qui font profession de servir Dieu et qui sont modestes et qui ne se parent pas de toutes sortes de choses somptueuses et qui sont discrètes. Mais celles qui doivent se taire, c'est celles qui sont chargées de péché, qui sont sensuelles, qui apprennent sans jamais rien à comprendre et sans jamais arriver, et puis qui essayent d'enseigner aussi. Je vais vous le montrer. Elles ne savent pas se tenir, elles excitent les hommes avec leur tenue impudique, elles enseignaient des choses fausses, des connaissances fausses, la fameuse gnose. Elles étaient, ce que Jésus dit dans Apocalypse 2,20, la fameuse Jézabel, qui se dit prophétesse, qui enseignait et qui séduisait ceux qui servent Dieu pour qu'ils se livrent à la débauche. Ça, c'est les gnostiques. Vous comprenez mieux ? Je continue. Il y a donc deux sortes de femmes dont Paul parle là. Et lui, il sait de quoi il parle. Et les gens qui reçoivent ces lettres savent, puisqu'ils sont en train de vivre la chose. Mais nous, on mélange tout. Si on ne fait pas attention aux mots que l'apôtre Paul emploie. Il y avait premièrement les femmes de 1 Timothée 2, 9, 11 qui enseignent et font profession de servir Dieu dans l'humilité, dans la décence, faisant des bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et puis, il y a les femmes de 2 Timothée 3, 6, 7, qui apprenaient toujours sans pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité. Les femmes du groupe numéro 2 ne devaient pas enseigner car elles étaient ignorantes de la vérité et elles se comportaient mal. Quand elles avaient compris quelque chose, elles voulaient commencer à en parler, à l'enseigner, tout séduisait les hommes avec leur indécence et cherchant à les mener dans la débauche. Voilà ce que je lis, moi. Paul ne voulait pas que ces bonnes femmes-là enseignent jusqu'à ce qu'elles soient enseignées correctement et qu'elles soient qualifiées pour pouvoir enseigner. Parce que, évidemment, elles peuvent se repentir. Elles peuvent changer. Et apprendre la vérité. Et à partir de là, se qualifier pour elle-même ensuite enseigner la saine doctrine. Elle ne devait pas non plus exercer sur l'homme une domination reposant sur la séduction et la sexualité. D'où le mot vulgaire employé par Paul, autentein. User d'autorité, vous rappelez, je vous en ai parlé au début. Seule fois que ce mot se trouve dans la Bible. Alors Paul réfute la prétention de ces femmes-là en leur rappelant qu'Ève a été faite après l'homme et qu'elle a été trompée par Satan. Et elles aussi, elles ont été trompées par Satan. Il dit cela pour casser la gloire que les gnostiques donnaient à Ève. Est-ce que vous comprenez mieux ? Il n'est pas en train de leur dire « Oui, toutes les bonnes femmes doivent se taire parce que de toute façon, Ève, c'était qu'un sous-produit. » C'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Pas du tout. Il est en train de casser l'enseignement des gnostiques qui avaient glorifié Ève, prétendant, souvenez-vous ce que je vous ai dit, qu'elle avait reçu en mangeant du fruit défendu une connaissance secrète dont elle était la détentrice et qu'elle était médiatrice entre Dieu et les hommes. Alors, revenons aux femmes qui font le bien. ce qui sied aux femmes qui font profession de servir Dieu, dans 1 Timothée 2, 10. Profession de servir Dieu, profession. En grec, excusez l'accent, epagelomai, ou epagelomai, je sais pas. En général, ce mot-là, le mot le plus utilisé dans la Bible, c'est le mot homologéo. Par exemple, dans Hébreux 3:1, Jésus-Christ est appelé le souverain sacrificateur de notre homologia, c'est-à-dire de notre confession, ce qui signifie qu'il est le souverain sacrificateur des choses qu'on dit en accord avec lui. Par contre, Paul, il emploie un autre mot, il n'emploie pas ça, il emploie un autre mot, il emploie le mot apagelomai. C'est une combinaison, ce mot, de deux mots grecs, ep, qui veut dire a, accent grave, et angelo, messager, porte-parole, ange. Donc, Paul parle bel et bien de femmes qui font profession de servir Dieu, c'est-à-dire qui sont des envoyées de Dieu, des messagers de Dieu. Et elles sont humbles, elles ont de la pudeur, pas comme les autres femmes gnostiques qui sont là dans l'église et qui... Vous voyez ? Alors les religieux machos, qui ne connaissent pas grand-chose aux Écritures, et qui enseignent depuis des siècles que toutes les femmes doivent se taire dans l'église, ils ignorent, j'espère qu'ils ignorent, et j'espère qu'ils ne veulent pas ignorer, ça serait beaucoup plus grave, la vérité. Il ne faut pas suivre leur exemple, mes frères et sœurs. Non, Paul n'était pas un macho. C'est à force de dire les bêtises qu'ils disent là, que même maintenant les païens disent « mais Paul, c'était un macho qui n'aimait pas les femmes. » Bientôt, ils vont nous dire aussi qu'il était homosexuel, je pense, et puis qu'il avait le droit de se marier. Paul était un vrai serviteur de Dieu. Soyons tous des vrais serviteurs et vraies servantes de Dieu, selon la vérité dans l'amour. Quand Paul éjectait les gnostiques, c'était par amour pour la vérité, pour Jésus et pour son Église que Jésus construisait. Ne laissons pas des doctrines étrangères de machos nous influencer. Étudions correctement les Écritures et enseignons-la aux autres. Faisons connaître ces choses. Vous voyez, le Saint-Esprit a été donné aussi bien aux femmes qu'aux hommes pour que les femmes et les hommes puissent être des epagelomai, c'est-à-dire des messagers de Dieu, des porteurs de messages, des anges purs, modestes et décents. Vous savez, que vous soyez homme ou femme, voilà ce qui convient aux epagelomai, c'est-à-dire aux envoyés messagers de Dieu. Voilà, ça c'est un enseignement qui est maintenant rétabli. La vérité doit être rétablie dans l'Église de Jésus-Christ et partout. Toutes choses doivent être rétablies avant que Jésus ne revienne. Jésus restera au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Il faut que la vérité, il faut que tout soit rétabli. Et cette vérité doit être rétablie. Nous ne voulons pas des enseignants qui tirent leur croyance des fables, ni des gnostiques, ni des francs-maçons avec leurs ruses. Non, non. Nous étudions et le Saint-Esprit nous éclaire. Même si nous ne sommes pas des grands intellectuels, le Saint-Esprit nous éclaire, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit a toute la puissance pour nous conduire dans la vérité. Et il le fera si nous continuons à être soumis à la parole dans nos actes. Si c'est simplement de la doctrine, alors ça ne sert à rien. Il faut que nos actes prouvent que nous croyons et que nous aimons véritablement la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen et amen. Jésus, je te remercie de m'avoir donné ce message pour mes frères et sœurs, afin qu'ils comprennent que dans le Saint-Esprit, il n'y a ni homme ni femme, mais que dans le Saint-Esprit, il y a des hommes et des femmes humbles, décents, avec de la pudeur, qui ne sont pas extravagants et qui ne cherchent pas à séduire, mais qu'il y a hors du Saint-Esprit, toute cette sorte de personnes et toute cette sorte de choses. Et je te prie, mon Dieu, que ce soit homme ou femme, chacun puisse s'approcher de toi, se mettre en ordre et faire ta volonté. Merci Jésus. Amen.